Vous êtes sur RTL. Vous pensiez qu'ils avaient tout donné pour leur première saison.
Xavier Dupont de Ligonnès.
Non mais c'est dégueulasse de ressortir ça tout le temps.
Non, je vais pas la ressortir, vous avez raison. Je suis resté bloqué sur ce qu'a dit Cyprien juste avant la pub et l'histoire de la 50e. Ouais. C'est vrai, on n'a rien fait.
Non, rien.
Ce soir, c'est la 51e. Il faudrait faire quelque chose.
Parce que pas
comme vous le savez, ils ne font rien comme les autres. Et ce soir, ils ont mis des petits plats dans les grands. Ont travaillé jour et nuit pour vous proposer un surf digne des plus grosses vagues hawaïennes. Des infos pour briller, encore plus brillantes que Dany Briand.
Je veux faire la raison.
Un loser qui pourrait concurrencer l'année 2020. Ou encore un monsieur cadeau plus généreux que le Père Noël. Ce soir, ce n'est pas la 10e, ce n'est pas la 20e, ni même la 50e, mais bien la 51e émission de On défait le monde sur RTL. Cyprien Signy.
Et toute l'équipe, une équipe assez folle, pour résumer les choses. On imagine l'auditeur qui débarque pour la première fois le vendredi à 7h-ci. On vous accompagne jusqu'à 20h, c'est On défait le monde, c'est l'actualité traitée avec rigueur, mais surtout, vous l'avez compris, bonne humeur. Numéro 8, saison 2, évidemment, Cyprien, un sommaire.
Direction New York à 3 semaines du scrutin. Les Américains font-ils une overdose avec Donald Trump? Philippe Corvet va nous faire sentir et palper l'atmosphère américaine. Des tests face au coronavirus. Ils sont entrés dans notre quotidien. Vous découvrirez le vrai parcours du coton-tige qu'on vous a mis dans le nez. Dans Défait le Monde, vous saurez qui est le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Céline, le ballon ne tourne plus rond à la Ligue de foot.
La LFP rêvait du milliard et court aujourd'hui après les euros de Mediapro.
Le droit de suite, le billet retour de Laurent Tessier ce soir. Vous nous ramenez rue d'Aubagne à Marseille.
2 ans après, des familles sont toujours dans l'attente d'un logement.
En écoutant On défait le monde, vous brillerez au dîner avant minuit et à 6 maximum grâce au couvre-feu, à la peste et au village people. Vous découvrirez la formidable initiative de 4 étudiantes en quête de lunettes et vous pourrez séjourner gratuitement dans un hôtel 4 ou 5 étoiles. C'est vous qui choisissez grâce à notre jeu vers 19h40. On défait le monde, saison 2, épisode 8.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On défait le monde dans RTL Soir.
Il est déjà connecté, Philippe Corbet, aux États-Unis, notre correspondant.
Je suis là.
Bienvenue chez les fous, Philippe.
Bonjour, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas encore l'heure de l'apéro ici, parce qu'il y a un décalage horaire. Je ne sais pas ce que vous buvez.
De l'eau. Tout va bien, on vous retrouve dans un instant, évidemment. On commence par le surf de la semaine avec Cyprien.
Eh bien, cette semaine, si vous êtes au bout du rouleau, pas motivé, que sur une échelle du moral, entre 0 et 10, vous êtes plutôt à 2,5, dites-vous que...
Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
La positive attitude.
Oui, dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des choses qui n'ont pas marché. Un peu comme quand j'avais essayé de me faire pousser des dreadlocks. Bref, un président dans le dur qui nous a quand même dit cette semaine...
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes.
Ah oui, ça, jamais. S'il y en a bien qui donne jamais de leçons aux jeunes, c'est lui. Hein. Bon, sauf là.
Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse. Je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Donc allez-y.
Mais sinon, jamais. Bon, sauf là aussi en fait.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
Oui, bon, sinon, jamais. Bon, allez, peut-être là aussi.
Ça va, Manu ?
Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur ?
Oui, monsieur.
D'accord ? Voilà. C'est bien.
Bon, après le respect, c'est vrai que ça compte quand même. Mais promis.
Je donnerai jamais de leçons à nos jeunes.
Non, jamais, sauf parfois. Bon, pendant ce temps-là, je crois qu'on est en train de perdre Jean-Luc Mélenchon. Oui, il devait participer à l'émission politique de France 2 hier soir, mais...
Il aurait dû s'installer ici, Jean-Luc Mélenchon, être notre invité, répondre à nos questions. Mais il y a un peu plus d'une heure, eh bien, le leader de la France Insoumise a exigé, Monsieur Véran, que vous quittiez le plateau. Nous gardons la maîtrise éditoriale de l'émission. Nous n'avons donc pas accédé assez à sa demande. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez pas Jean-Luc Mélenchon.
Ouais, il n'est pas venu sur France 2 du coup, mais il n'a pas perdu son temps puisqu'il en a profité pour faire une vidéo sur le réseau social très prisé des jeunes, TikTok. Je sais que vous adorez Stéphane. Vidéo dans laquelle il fait que regarder sa montre pour moquer le couvre-feu et à la fin, il se retrouve au pied du stade Vélodrome et écoutez bien.
C'est jeudi, c'est pas samedi, c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé.
C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé.
Complètement roue libre sur bande organisée Jean-Luc, alors que du côté de la politique plus traditionnelle sur RTL le matin, il y a toujours notre désormais incontournable.
And now,
the best Alba Ventura on RTL.
Oui, notre Alba Ventura national qui, à force de recevoir des pléiades de stars américaines en prime time.
Bonjour Bill Gates, good morning.
Bonjour,
good morning Oliver Stone. Thank you very much.
Ah, ça claque. Bref, tout ça commence à mettre sacrément la pression sur les invités qui passent après, hein, du coup. Comme cette semaine, quand elle recevait...
Bonjour Gaëlle Perdriau.
Bonjour.
Oui, Gaëlle Perdriau. Oh, Perdriau, pardon. Maire de Saint-Étienne. Tellement perturbée et sous pression qu'il ne savait plus trop à qui parler, dites donc.
Vous ne prenez pas votre part.
Le ministre de l'Intérieur,
depuis 15 ans.
Si, Madame Alba. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que
Ventura. Alba, c'est le prénom. Bon, je peux vous dire qu'il l'a pas fait deux fois celle-là.
Alors c'est beaucoup trop, Madame Ventura.
Je préfère. Enfin, l'incruste de la semaine, nous sommes sur Rai Tre, la troisième chaîne italienne. Interview en Zoom de Carla Bruni, toute contente de montrer chez elle et son studio aux téléspectateurs italiens.
C'est casa mia, mio studio.
Oh, guarda.
Dove registro tutte le mie canzoni.
Oh, c'est joli. Et d'un coup, qui c'est qui débarque dans l'embrasure de la porte? Surprise.
Oh, marito. Non, ma scusa. Il presidente.
Il presidente. Il s'en remet pas, le présentateur Sarko, en toute détente, sans bras de chemise, qui débarque en direct sur la Rai.
Ma non, ma ce lo fai salutare.
Ciao Italia.
Buonasera presidente. Signor presidente, buonasera.
Ciao Italia. Bon, c'était avant la mise en examen. La classe à l'italienne, et pour plus de zoom et d'impro, pas si improvisé. Vivement la semaine prochaine.
Vivement la semaine prochaine, le surfeur. C'est Cyprien Signy, des 19h21.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde, c'est la grosse info. On part aux États-Unis comme promis avec notre renfort de la semaine.
Et oui, Brice Duginis repose, mais il est avantageusement remplacé, vous l'avez entendu tout à l'heure, par un autre grand reporter du service étranger. C'est notre correspondant à New York, Philippe Corbet, direction Big Apple.
RTL Evening. We defeat the world. On est sûr de la traduction, là ?
Oui, c'est bon, t'inquiète, je suis bilingue.
Ah, okay, we defeat the world live from New York.
Eh oui, live from New York, c'est il était bien celui-là. Bonsoir Philippe Corbet.
Bonsoir. Je veux garder le jingle. Hein.
Oui, oui. Ah ben, je le garde pour vous. Quand vous revenez, vous l'avez. Donc vous êtes en direct de New York, on l'a dit. Et vous voulez nous offrir des clés, on va en profiter, pour comprendre ce qui va se passer dans 18 jours, c'est-à-dire le jour de l'élection américaine.
Oui, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que les Américains sont fatigués? Quand je dis fatigués, vraiment épuisés par le spectacle Trump? Ou est-ce qu'ils ont envie de voir les prochains épisodes de ce feuilleton Trump pendant les 4 prochaines années? En fait, l'un des grands talents de Trump, c'est qu'il sait mieux que personne capter l'attention. C'est comme ça qu'il a gagné. Et depuis sa déclaration de candidature, c'était le 16 juin 2015, eh bien, on assiste ici tous les jours à un spectacle Trump, des matinales à l'heure du petit déjeuner, aux journaux télévisés à l'heure du dîner, et toute la journée sur les chaînes d'infos incontinues, les réseaux sociaux, c'est Trump.
Vous le faites bien. Mais c'est pas le seul à alimenter le spectacle quand même.
Non, alors lui se met en scène comme le personnage principal, c'est lui, mais il y a aussi tous ceux qu'il désigne comme des ennemis, les démocrates, les médias, qui participent malgré eux à ce spectacle. En fait, l'ancien présentateur télé-réalité sait mieux que personne que la télévision, c'est d'abord du spectacle. Et donc il met en scène son pouvoir comme un spectacle pour la télévision. Et comme il connaît très bien les ressorts de la télé, il sait comment créer de l'attente, du rebondissement, du conflit, les héros, les méchants, jour après jour, comme un feuilleton avec des épisodes. Et comme il sait capter l'attention, ça lui permet aussi de détourner l'attention quand il est en difficulté. Il suffit d'un tweet, d'une phrase polémique pour allumer un contre-feu. On en a vu un bel exemple récemment, c'est à la sortie de l'hôpital. L'hélicoptère au soleil couchant qui se pose sur la pelouse de la Maison Blanche en direct à l'heure des journaux télévisés. Il monte sur son balcon et là, d'un geste un peu sec, il enlève son masque. Mais voilà, c'est un spectacle.
Mais alors Philippe, pourquoi dites-vous qu'il y a une fatigue ?
Ben, en fait, comme tous les feuilletons télévisés qui durent depuis plus de 5 saisons, il y a quelques téléspectateurs qui peuvent ressentir une forme de lassitude, une certaine fatigue. C'est mécanique. La première fois que j'ai pensé à ça, c'était il y a à peu près un an, le démocrate Pete Buttigieg, qui était candidat à la primaire démocrate, il faisait campagne. Et le truc qui était le plus applaudi, mais dans tous ses meetings, c'était quand il disait « Imaginez le jour où Donald Trump ne sera plus président, que vous pourrez allumer la télévision et qu'on ne parlera plus de Trump. » Il disait aussi souvent que les Américains avaient le pouvoir de changer de chaîne. Et en fait, ces derniers mois, on voit des signes ici ou là qui montrent que ce spectacle Trump capte moins l'attention. Autrefois, ces propos provocateurs faisaient toujours la une. Aujourd'hui, ne sont plus systématiquement repris. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils publient de plus en plus de tweets, car chacun d'entre eux capte moins l'attention.
Et chez les électeurs, vous la sentez aussi, cette fatigue, ou pas ?
Oui, il y a quelques jours, j'ai rencontré Jen en Pennsylvanie. En 2016, elle a voté Trump avec enthousiasme. Elle lui faisait confiance, notamment parce qu'elle aimait sa télé-réalité. Mais elle m'a dit qu'elle était vraiment fatiguée. Elle ne supporte plus même de le voir ou d'entendre sa voix.
I can't stand to look at him or hear his voice. He's annoying. He talks horribly. This is such a disgrace. It causes me anxiety, I swear.
Alors je vous le traduis, elle dit, il est insupportable, la manière dont il parle est horrible, c'est une honte. Elle dit que ça déclenche chez elle de l'anxiété. Et donc, elle a décidé de voter démocrate pour la première fois de sa vie, même si elle n'aime pas vraiment Biden. Autre exemple, Glenn, dans une petite ville de l'Ohio, lui aussi, il a voté Trump, mais il est de plus en plus agacé quand il le voit à la télé. Et il se trouve que Glenn m'a accueilli chez lui le lendemain du débat télévisé Trump-Biden, pendant lequel le président avait été très agressif.
But when he gets on TV, and just like last night at that debate, I wasn't happy with that. That was uncomfortable watching all that.
Et donc Glenn me disait qu'il était vraiment pas content, il se sentait même mal à l'aise de regarder ça. Il était impatient de voir le débat et finalement il n'est pas allé jusqu'au bout, il a préféré zapper sur un match de baseball. Alors Glenn va quand même voter Trump, mais il aimerait que le président soit plus calme. Par exemple, hier soir, il y avait un débat Trump, enfin il y avait pas un débat d'ailleurs, c'était il y avait deux émissions Trump-Biden sur deux chaînes séparées, NBC et ABC. Trump avait accepté l'émission seulement si elle était programmée en face de celle de Biden parce qu'il voulait faire plus d'audience que Biden. Trump a fait ce qu'il sait faire, c'était de la super télé, de l'attention, des rebondissements, quelques attaques, mais aussi des moments drôles et même il jouait de son charme. C'était vraiment de la bonne télé. Biden à côté, sur la chaîne d'en face, c'était la marche du siècle, quoi. C'était solide, sérieux, mais c'était un peu austère et infiniment moins divertissant. Eh bien, on vient d'avoir les premiers chiffres d'audience qui ne sont pas encore définitifs, mais c'est une bonne indication. Bah, devinez quoi, c'est l'émission avec Biden sur ABC qui a plus de téléspectateurs que celle de Trump sur NBC. Et quand je dis la marche du siècle, c'est gentil, hein. C'était plutôt au RTF 1969.
Comme quoi les Américains ont un goût du suranné.
Ouais, non, on ne savait pas.
Non, mais c'est calme, c'est plus calme.
Et honnêtement, vous pensez qu'il s'en rend compte, Trump, de ça ou pas du tout?
Non, mais il s'en rend compte, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il essaye de faire du spectacle, du show. Il sait, il pense que c'est sa plus grande force.
Donc il continue là-dedans, en fait.
Oui, ben c'est il aurait pu à l'hôpital, quand il était à l'hôpital, il aurait pu le jouer modeste, jouer j'ai souffert, j'ai compris, j'ai appris, tout ça. Non, il a voulu faire la mise en scène spectaculaire. Et encore, l'hélicoptère, c'était la version soft. Ce qu'il avait envisagé, et ce que des conseillers lui ont dit, c'était pas une bonne idée, c'était de sortir en faisant un peu la tête, en ayant l'air fatigué, et d'arracher sa chemise pour montrer un tricot Superman. Il y a des conseillers qui lui ont dit que c'était peut-être un peu trop.
Voilà, ça, c'est les médicaments qu'il prend, c'est pas possible.
Mais non, c'est la télé.
Ouais, c'est la télé.
Et en tout cas, il le mérite, Philippe, son jingle. Hein.
Ah ouais.
Et canon,
Philippe.
Tu peux le réécouter?
Ouais. Bien sûr.
RTL Evening, we defeat the world. On est sûr de la traduction, là?
Oui, c'est bon, t'inquiète, je suis bilingue.
Ah, ok, alors. We defeat the world live from New York.
En vrai, Philippe, comment on dit on défait le monde? En gros.
On aurait dit, the world is defeated.
Ah ben voilà, oui, je suis bon.
Quelques doutes, vous nous rassurez.
Merci d'avoir été avec nous depuis New York. À très vite, bien sûr. Puisque la campagne présidentielle, la suite, on va la vivre sur RTL. L'élection, c'est le 3 novembre prochain, je vous le rappelle. On défait le monde encore 32 minutes. Vous restez là dans un instant.
On allume la lumière
tous ensemble.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde sur RTL.
On défait le monde tous les vendredis soirs, on est ensemble avec toute l'équipe jusqu'à 20h. On va faire une parenthèse parce que la priorité c'est l'actualité tout en direct, vous le savez, cette information qu'on a appris en fin de journée tout à l'heure. Un homme mort décapité dans le Val d'Oise, Alice Moreno, est l'auteur présumé de cette attaque abattue.
Absolument, c'est lui qui a décapité un professeur d'histoire d'un collège-lycée de Conflans-Sainte-Honorine. L'attaque s'est produite dans la ville voisine d'Erani. Après lui avoir tranché la tête à l'arme blanche, l'assaillant s'enfuit mais il est rattrapé quelques centaines de mètres plus loin. Un équipage de policiers de la BAC parvient finalement à l'appréhender. Le somme de lâcher son arme. Ce dernier refuse. Les forces de l'ordre lui tirent dessus à plusieurs reprises et le blessent. Il décède de ses blessures un peu plus tard. Les motivations de l'auteur de l'attaque demeurent pour l'instant inconnues. Mais le professeur victime a montré à ses élèves de collège des caricatures de Mahomet ces dernières semaines. Des cours qui ont choqué plusieurs parents d'élèves et le professeur aurait reçu des menaces récemment. Le parquet national antiterroriste est saisi de l'enquête.
Merci beaucoup Alice Moreno du service police-justice de RTL. Nous sommes en ligne avec Rodrigo Arenas de la FCPE locale qui est en ligne avec nous sur RTL. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être en direct. Est-ce que vous-même vous avez été alerté ces derniers temps par des parents d'élèves peut-être de la situation?
Alors nous avons été alertés le 9 octobre dernier de cette situation-là et nous avions évidemment, en tant que fédération de parents d'élèves d'utilité publique, informé immédiatement l'autorité compétente, c'est-à-dire la ville, qui nous avait assuré que l'éducation nationale se saisissait de cette affaire parce qu'elle nous inquiétait. Elle nous inquiétait de par le fait que les informations nous remontaient énormément, notamment sur les réseaux sociaux, et qu'il est de notre rôle et de notre devoir d'informer les pouvoirs publics chaque fois qu'une situation pareille se produit. C'est de cette façon-là qu'on défend la République. Aussi.
Et donc, depuis vos alertes, voilà. Vous n'aviez pas eu de retour, et notamment de l'éducation nationale ?
Ben, nous n'avons pas de façon à avoir de retour, puisque nous sommes une fédération d'utilité publique. C'est à l'éducation nationale de gérer cela, et dans ces cas-là, j'imagine, avec les services de police, puisque nous faisons l'alerte, nous faisons le signalement, mais ensuite, c'est évidemment à l'État d'avoir les services compétents pour le faire, et nous n'avons pas eu de retour depuis ce jour-là, donc il nous semblait que l'affaire s'était plus ou moins tassée et que ça allait avoir un traitement, on va dire, traditionnel de ce type de conflit qu'il peut y avoir sur ce sujet-là, mais comme sur d'autres aussi en milieu scolaire.
Merci Rodrigo Arenas de la FCPE d'avoir apporté ces premières précisions. Je crois que le maire d'Éragny est en ligne avec nous. Thibault Humbert, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Quelles sont les informations que vous pouvez nous communiquer ce soir à 19h34
Les informations que j'ai, une victime décapitée sur la commune de Conflans, limite Éragny sur Oise. Après, l'individu qui a commis l'acte neutralisé sur la commune d'Éragny par les forces de l'ordre qui avaient été appelées par des témoins de ce crime horrible. Donc voilà, et neutralisé très rapidement sur la commune d'Éragny par les forces de l'ordre.
Ça a été très rapide évidemment cette intervention. Ouais. Est-ce que ce soir, c'est toujours bouclé le secteur par les forces de l'ordre ?
Le secteur est toujours bouclé, bien entendu. Le procureur est sur place. La police judiciaire également et la brigade antiterroriste.
Est-ce que vous, en tant que maire, vous aviez été alerté de la situation de ce professeur dans cet établissement scolaire ?
Ah ben non, pas du tout, puisque déjà c'est pas sur mon territoire. Hein, le professeur est sur Conflans-Sainte-Honorine, donc sur nos communes sont limitrophes, Conflans et Éragny. Et donc non, j'avais pas du tout vu cette information. J'ai appris ça là à l'instant par les services de police.
Merci des premières infos en direct grâce à vous. Merci, bonne soirée, bon courage évidemment tous vos habitants. On imagine pas mal d'émotions dans le secteur. On prolongera tout ça dès 20h sur RTL. On va reprendre le fil de On défait le monde. Nous sommes vendredi avec toute l'équipe. 19h35, à tout de suite.
RTL Soir, On défait le monde. RTL Soir, On défait le monde. Allume la lumière.
C'est un expert qui nous ouvre les portes du savoir, Cyprien.
Ce soir, alors que le test Covid est devenu l'alpha et l'oméga de notre quotidien, que la culture de l'écouvillon, cette espèce de coton-tige qui nous chatouille les narines, est en train de nous frapper de plein fouet, on a voulu en savoir un peu plus sur le parcours du dit coton-tige.
Oui, entre le moment où on nous l'enfonce dans le nez jusqu'au cerveau, ou presque, et les résultats du test dans notre boîte mail, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, pour refaire le parcours complet de l'écouvillon, pour pénétrer dans les coulisses des labos, on reçoit le docteur Lionel Baran. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes le président du syndicat des jeunes biologistes médicaux. Alors, racontez-nous, on va au labo, ou chez l'infirmier, près de chez nous. On fait la queue. On a rendez-vous, on fait la queue quand même. On nous met le coton-tige dans le nez, et après, il se passe quoi ?
Quand on a le coton-tige, on le met dans un petit tube dans lequel il y a un milieu de conservation du virus. On fait la préparation et on envoie ce petit tube dans lequel il y a le coton-tige dans le laboratoire qui a la machine qui permet de faire l'analyse. Ensuite, on va avoir des techniciens de laboratoire qui vont traiter cet échantillon-là. Ah,
attendez, je vous arrête. Comment il y va, comment vous l'envoyez, l'écouvillon ?
Ah bah, par un coursier. Il y va par un coursier. On a des coursiers régulièrement qui transportent le sang, les prélèvements nasopharyngés, les urines, etc. entre les différents laboratoires.
Le coursier vient à horaire fixe ou vous attendez d'avoir 200, 100, 500 échantillons pour lui en donner ?
Non, en général, on a des tournées de coursiers à heure fixe et qu'ils l'envoient ensuite dans un laboratoire, le gros plateau technique, pour faire les analyses.
Et ça veut dire qu'il y a peu de laboratoires qui sont équipés aujourd'hui pour lire ces tests, pour les décrypter ?
Ah bah oui, ce sont des grosses machines. Et donc, il y a les plateaux techniques, c'est-à-dire les laboratoires qui réalisent les analyses. Et il y a les laboratoires qui ne font que le prélèvement, faute de place.
Et alors, une fois que notre coton-tige est sur le plateau technique, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, les techniciens vont déballer les échantillons, ils vont extraire extraire l'ARN du virus avec des produits et ensuite ils vont déposer une petite goutte de ce produit sur des plaques qu'on va ensuite passer dans des machines et ces machines-là vont analyser les petites gouttes au niveau des plaques pour sortir un résultat.
C'est quoi l'ARN ?
Eh ben l'ARN c'est comme de l'ADN, c'est le matériel génétique du virus, c'est comme de l'ADN avec un seul brin.
Et alors dans ce plateau là, il y a des spécialistes, des techniciens qui tapent tout, enfin c'est tout fait à la main les résultats ou pas ?
Non, c'est automatiquement saisi de la machine d'analyse à nos systèmes informatiques et le technicien et le biologiste vont vérifier la concordance pour être sûr que le résultat soit juste et à ce moment-là on valide au niveau de notre système informatique pour que le résultat soit envoyé et aux médecins et aux patients.
Et est-ce qu'il y a un système de code-barre, je ne sais pas, pour être sûr que c'est le bon test qu'on analyse de la bonne personne ?
Oui, tout à fait. On a des systèmes de code-barre qui permettent de gérer l'identito-vigilance.
Et alors moi j'ai une question, je suis allé faire le test, hein, je raconte un peu ma vie, avec d'autres personnes, on est arrivés au même temps dans le laboratoire, on a tous fait le test les uns à la suite des autres, et en fait moi je l'ai eu 24 heures après les autres, comment ça se fait ?
Alors oui, en fait, vous pouvez tout à fait passer 5 minutes après une personne, avoir les résultats 24 heures avant ou 24 heures après, parce qu'il peut se passer plusieurs choses. Les plaques qu'on passe dans la machine, en général, elles ont 96 places, c'est-à-dire qu'on peut analyser 96 patients en même temps. Si vous êtes le 97e, eh ben vous serez sur la plaque suivante, donc il y a un délai de quelques heures. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on ne peut pas valider un résultat parce que le contrôle cellulaire, c'est-à-dire le contrôle qui nous permet de vérifier qu'un résultat est bon, eh ben ce contrôle-là ne passe pas bien. Donc on est obligé de refaire l'analyse pour s'assurer de cette qualité du résultat.
Et ils deviennent quoi après les écouvillons ?
Les écouvillons sont gardés quelques jours,
ah ouais.
Au cas où il y ait justement une réanalyse à faire. Et puis ensuite, ils sont jetés par des systèmes de gestion des déchets de sécurité. C'est-à-dire qu'on a toute une filière de traitement des déchets par sécurité de tout ce qui est déchets biologiques. Et ces prélèvements-là rentrent dans ce cadre-là.
Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair. Lionel Baran, on en sait beaucoup plus sur le parcours du coton-tige grâce à vous. Bonne soirée.
Je vous en prie. Bonne journée à vous.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de la 151e info pour briller au dîner.
Peut-être la meilleure.
Oh, peut-être.
À 19h42, c'est avec Laurent, la première de ce soir.
Oui, parce qu'avec le couvre-feu, vous savez, pour sortir entre 21h et 6h du matin, il vous faudra de nouveau une attestation dérogatoire, un papier ou sur votre smartphone. Mais ce n'est pas nouveau. Et là, ça va vous surprendre.
En 1700 mois.
Oui, bien joué Cyprien Sini, vous avez tenté un piège. En 1720, ces attestations de déplacement existaient déjà en France. Alors il fallait se munir de son petit bout de papier, son laissez-passer pour sortir. Et à ce moment-là, la peste sévissait dans le sud du pays. Plus de 100 000 personnes ont perdu la vie. Et un historien a publié un exemplaire sur Twitter de ce laissez-passer daté du 4 novembre 1720 au nom d'un certain Alexandre Coulon. Alors il fallait écrire son nom, son prénom, sa ville, son âge, sa taille et la couleur de ses cheveux.
Ah oui, bah, il n'y avait pas de photo d'identité à l'époque.
Voilà,
bien joué. On aurait mal, hein.
Ah oui, plus de cheveux, nous.
Et cette petite phrase a complété, par exemple, Stéphane Carpentier part de ce lieu où il n'y a aucun soupçon de mal contagieux pour aller à... Et là, vous deviez inscrire la ville. Donc, 300 ans après, l'histoire se répète.
Elle est belle, cette info pour briller ce soir.
Bah, 50e, on la sent bien.
Là. On la sent bien. 19h43.
RTL.
Le loser de la semaine. Ah. Numéro 51.
Ah bah oui, parce qu'il y a un thème. Hein.
Ouais, ça rigole pas. Alors, vous savez que pour la 51e fois, c'est l'instant préféré de mon frère dans l'émission. Il me l'a dit la dernière fois. Il adore savoir qui est le loser de la semaine. Voilà. Ça, c'est cruel comme rubrique, mais
j'aime
quand même.
Beaucoup votre frère.
Ouais, je le salue. Quand on découvre l'identité de celui ou de celle qui a été porté par la guigne, par le manque de bol, et cette semaine, c'est la Ligue de foot professionnelle qui a pas misé sur le bon cheval.
Oui, la LFP, celle qui sabrait le champagne il y a 2 ans et demi. Mais si, rappelez-vous, c'était fin mai 2018.
La Ligue de football professionnel comptait faire monter les prix, c'est réussi.
Les sommes déboursées atteignent des records.
Plus d'1,150 milliard d'euros.
C'est le groupe espagnol Mediapro qui rappele la Nice.
Olé, le pactole pour le foot français. Les droits télé du championnat de France s'envolaient grâce à ce nouveau diffuseur aux allures de poule aux œufs d'or. Et Didier Quillot, le patron de la Ligue, se frottait les mains.
1,153 milliard d'euros, c'est en effet 60% d'augmentation par rapport au cycle actuel. Et il reste encore 2 lots à commercialiser. Donc c'est en effet une très très bonne performance. C'est lié à plusieurs choses. D'abord la qualité de notre produit Ligue 1 qui s'est améliorée, le championnat qui progresse, qui est plus spectaculaire, qui a plus de buts, les audiences qui ont progressé de 25% d'une saison sur l'autre, les affluences dans les stades qui ont augmenté.
Ah, tout était formidable, ah oui. formidable. Le grand partenariat entre la Ligue et Mediapro commençait donc au début de cette saison, au mois d'août dernier. Mais entre-temps, le coronavirus est passé par là.
Les stades vont sonner creux, fini le public et les supporters pour pousser leurs équipes. Tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 vont donc se jouer à huis clos.
Plus de supporters dans les stades, moins d'ambiance, peu d'abonnés pour la nouvelle chaîne et un diffuseur qui traîne des pieds pour honorer ses traites.
Le ton monte donc entre la Ligue de foot d'un côté et le nouveau diffuseur des matchs de Ligue 1.
Mediapro qui demande à renégocier les droits télé.
La société espagnole veut renégocier le contrat global et n'a d'ailleurs pas réglé la deuxième échéance, 172 millions. La Ligue, elle, refuse d'accorder un délai de paiement ou toute renégociation.
C'était il y a 8 jours. Depuis, rien n'est réglé. Au contraire, la Ligue a mis en demeure Mediapro de payer ses échéances d'octobre. Elle demande en attendant aux banques de lui prêter de l'argent pour tenir le coup et réfléchit si ça n'aboutit pas à se tourner vers d'autres opérateurs. Mais là, pas sûr que la Ligue 1 vaille encore un milliard.
Et une pensée pour tous ceux qui ont souscrit un abonnement d'un an à Téléfoot.
On sait combien de personnes
on sait qu'il y a Cyprien Sini.
En plus, moi j'ai pris l'engagement un an pour que ça soit moins cher, 25 euros par mois. Je veux dire, je suis mal.
Le prix de loser de la semaine, donc attribué par Céline Landreau. 19h46, le cadeau pour les auditeurs, le jeu.
Ah, l'instant que vous attendez tous.
Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui ? Ah, ben bien sûr. Bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras.
Ah, l'indémodable Père Noël est une ordure. Non, c'est évidemment beaucoup mieux que ça, ce qu'on a à vous offrir. Hein.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
En tout cas, il y a intérêt avec Monsieur Cadeau, Grégory Caranoni, réalisateur de cette émission. Vous nous faites rêver avec quoi ce soir ?
Aujourd'hui, je vais être très court. Ah. Un séjour pour deux ou trois ou quatre personnes. Ça, vous le saurez en appelant et en découvrant le cadeau. En tout cas, ce sera deux nuits. Deux nuits dans l'un des hôtels Hôtel et Préférences. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site hôtel-préférences.com et vous aurez dans ce coffret cadeau Hôtel et Préférences deux nuits dans un hôtel de votre choix. Parmi tous ceux qui sont proposés.
Je crois qu'il y en a 150.
Il y en a 150. Il y a les petits déjeuners qui seront compris. Et puis vous aurez un accueil VIP dans une atmosphère intime et conviviale.
Ah bah très c'est convivial. Bien, pas, ça. Moi j'adore le convivial. Alors la question pour gagner ce cadeau quand même. On parlait tout à l'heure de l'élection américaine. Comment s'appelle la maison dans laquelle vit le président américain ? Est-ce que c'est la maison bleue adossée à la colline ? On y vient à pied. Est-ce que c'est la maison blanche ? Ou est-ce que c'est.
La maison de Mickey.
Maison de Mickey. Et c'est pas la maison de Donald non plus. Alors est-ce que c'est la maison bleue adossée à la colline, la maison blanche ou la maison de Mickey ? Vous avez la bonne réponse. 32-10, on tirera au sort parmi les gagnants. On passera un coup de fil au vainqueur à gagner deux nuits dans un magnifique hôtel là, 4 ou 5 étoiles.
Là c'est pas facile parce que les trois sont aux États-Unis et on a mis un peu de difficulté quand même.
Il y en a une qui est à San Francisco.
Bah c'est pas les États-Unis ?
Oui. Oula.
Merci.
Ok, cours de géographie à suivre. Vous restez là. 32-10, vos appels pour tenter de décrocher le cadeau de ce vendredi soir. 19h47, à tout de suite.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de la 152e info pour briller au dîner.
C'est avec Cyprien, d'ailleurs.
Campagne électorale américaine toujours. Cette semaine, Donald Trump a repris ses meetings géants. Et pour montrer aux Américains qu'il était en pleine forme malgré son Covid, vous avez peut-être vu cette vidéo sur laquelle le président se trémousse sur... limite en moonwalk sur YMCA, des Village People à fond dans les enceintes du meeting. Et bien les Village People, que vous connaissez tous, c'est une invention française. Oui, monsieur. Deux producteurs français, Henri Bellolo et Jacques Morali, en balade dans Greenwich Village à New York en 1977, vont avoir une révélation en voyant un gars entrer dans un bar déguisé en indien. Dans leur tête, ça fait tilt, surfer sur la vague disco et sur l'avènement d'une imagerie ouvertement gay pour monter un groupe de toutes pièces. Les deux Français fabriquent littéralement les Village People, avec le succès qu'on connaît, toujours aussi culte 40 ans plus tard. Et si tout le monde entier danse sur YMCA, c'est à la France qu'il le doit, le génie français, et parfois sans limite, mesdames, messieurs.
On peut monter le son ou pas ?
J'adore cette chanson. Eh bien ça, c'est la France, monsieur. Vous le saviez ?
Non, je le savais pas.
Eh ben voilà.
Non, on a pris des choses encore. Ça
sera... À quelle heure, la France ?
19h51.
Marche
ou rêve, c'est nouveau cette saison. C'est quand on met en valeur vos projets, vos rêves ou vos initiatives.
Et ce soir, des jeunes filles qui ont décidé de donner de leur temps pour y voir plus clair, Laurent.
Très beau jeu de mots. Nous allons mettre en avant, c'est vrai, une formidable initiative. À la base, une association, Marlodge Beauvais. Marlodge, c'est le nom d'une île. Au Sénégal, des bénévoles se réunissent, s'investissent pour améliorer les conditions de vie des habitants des villages. Et 5 étudiantes de l'école d'orthopsie de Lille ont décidé de leur donner un coup de main et de participer à une mission humanitaire pendant les grandes vacances en 2021. Nous sommes en ligne avec l'une d'entre elles. Bonjour Emma.
Bonjour.
Vous avez 20 ans. Quelles actions comptez-vous réaliser pour les habitants de Lille ?
Alors notre but là-bas, c'est de leur permettre la santé visuelle, de leur faire des examens de vue et afin de les adapter en lunettes.
Et pour mener à bien votre mission, vous avez besoin, j'imagine, d'un maximum de paires de lunettes. Vous avez lancé une collecte ?
C'est ça, on a besoin de beaucoup de lunettes, environ 2000 lunettes, mais également de dons financiers et de matériel optique pour mener à bien cette mission.
Comment vous avez eu l'idée de faire ça? Parce que bon, effectivement, vous étudiez en orthoptie, mais bon, c'est pas une raison pour le faire, hein.
C'est parti d'un coup de tête de base, d'une idée au cours d'un repas, et puis tout le monde a accroché et on s'est dit « allez, c'est parti ». On a envie de donner notre temps pour un projet humanitaire, c'est un beau projet et ça permet nous aussi de nous former différemment et puis de permettre de découvrir d'autres univers et d'autres façons.
Vous les récupérez où, les lunettes? Comment vous faites?
Alors, soit c'est des professionnels de santé, soit surtout c'est des particuliers. On a reçu des colis de lunettes, on va récupérer des lunettes, il y a tout le monde qui nous en envoie, c'est super sympa. On est hyper touchés et c'est vraiment tout le monde. Et puis c'est super simple de donner des lunettes parce qu'on a toujours des lunettes qui traînent au fond d'un placard. Et, c'est
ça. Qui sont inutiles et qui servent à rien. Et vous les acheminez comment?
Soit par voie postale, soit des fois on s'arrange pour aller les récupérer un peu partout. On communique et on est cool.
Et certaines paires de lunettes sont déjà arrivées au Sénégal, hein, c'est ça?
C'est ça, il y a environ 500 paires sur place.
D'accord. Et vous avez besoin de paires de lunettes parce que vous pouvez lancer un appel, hein, profiter de l'antenne d'RTL. Hein.
Alors oui, du coup, on va lancer un appel. Donc si vous avez des lunettes qui traînent chez vous, si vous êtes des professionnels aussi, et vous avez des lunettes en rab, que vous ne vendez pas, que vous n'utilisez pas des essais, eh ben, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook et on sera un plaisir de récupérer vos lunettes et de les envoyer au Sénégal.
Bien, hein, alors le voyage était prévu initialement pour juillet 2020, mais c'est vrai qu'avec la crise du Covid-19, le voyage a été reporté pour les grandes vacances en 2021.
En tout cas, vous pouvez envoyer des lunettes, même si vous ne pouvez pas y aller.
Oui. Voilà. Pour l'instant, oui, ça marche.
Avant tout ça, Emma, vous aviez une sensibilité humanitaire? Vous étiez déjà engagée dans des actions ou c'est la première fois à 20 ans?
C'est la première fois que je me lance dans un projet humanitaire.
Mmh, avec les copines.
C'est ça.
Bon,
c'est encore mieux.
Je l'imagine bien. Bravo à vous, évidemment. On suivra vos aventures, vos collectes et puis l'acheminement au Sénégal, Laurent, comme d'habitude.
Oui, on rappelle la page Facebook.
Oui, et n'hésitez pas forcément à joindre toute l'équipe, l'association Mar Lodge Beauvais qui permettra de récolter toutes ces paires de lunettes. Voilà, ça fait un beau geste, un bel acte pour tous ces habitants de l'île de Mar Lodge au Sénégal.
Et si vous avez des projets, des initiatives comme Emma, contactez Laurent sur la page Facebook de l'émission.
Vous
ne
donnez pas mon numéro de téléphone.
Non, sur 0607 14, non, et sur le compte Twitter également.
C'est le début de votre numéro, c'est pas grave.
Je sais.
C'est Marche au rêve, c'est tous les vendredis soirs dans RTL Soir, on défait le monde.
Un gagnant. Un garçon, il s'appelle Anthony, il habite à Niort. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
Bienvenue.
Un supporter des Chamois.
Merci.
Ou pas.
Non,
mais ça se trouve, il déteste le football, pourquoi
non,
tout de suite?
Si on habite Niort, on est supporter des Chamois. Hein.
Alors, oui ou non?
J'ai pas trop le choix, oui. Hein.
Ah voilà, merci.
Non, vous avez pas le choix parce que Céline vous l'impose ou vous avez pas le choix parce que vous êtes Niortais et que vous aimez pas le foot?
C'est un peu les deux. Je crois que j'ai pas le choix parce que je suis Niortais et puis si je dis le contraire, si je dis que je.
Ah vous n'avez plus de cadeaux, c'est ça.
Elle est terrible.
Bon, alors on répète la question quand même. Comment s'appelle la maison où vit le président des États-Unis? Est-ce que c'est la maison de Mickey, la maison bleue ou la maison blanche?
Ça aurait été marrant que Donald habite dans la maison de Mickey, mais non, c'est la maison blanche, bien sûr.
Je vois qu'on a le même humour, Anthony, on va bien s'entendre. Bon, vous gagnez ce magnifique séjour. Alors, il y a 150 hôtels au choix, il y a des 4 étoiles, il y a des 5 étoiles. Vous choisissez celui que vous voulez.
Et vous partez à 2. À 2, c'est quand même nettement plus sympa.
Ouais, c'est mieux.
Ah, c'est
plus intime.
Vous savez à qui vous allez partir?
Non, j'en ai aucune idée.
Ah, lancez un appel.
Céline, elle adore le foot, elle vient où vous voulez.
Je connais bien Niort.
Merci Anthony de votre fidélité, bravo à vous et merci à vous tous d'avoir joué au 32-10 et tous les vendredis soirs. On vous fait un cadeau, on vous informe avec rigueur et bonne humeur. Toute l'équipe vous retrouvera vendredi prochain, on sera où? Alors du coup, 52e.
52e.
On aura un jingle aussi, Greg, comme ça ou pas?
Je vais voir.
Ah ouais, il y a du boulot pour tout ça. On peut se remettre un peu de musique ou pas?
Village
People,
vous ferait plaisir.
Ça traîne comme ça?
Pourquoi les Village People?
Mais pourquoi pas?
Vous aimez bien ça?
Ouais. Ça fait bouger, c'est toujours sympa.
Il est trop tôt, hein. Même jusqu'à demain, pas minuit ce soir quand même. Non, soyez prudents surtout.
Rendez-vous vendredi prochain pour défaire le monde comme tout les fins de semaine sur RTL.
Ouais, bon, c'est bon, on a assez entendu, non? Village People,
fait le monde dans RTL Soir.